Vous écoutez un podcast de la Société psychanalytique de Paris.
Mourir d'écrire, de Rachel Rosenblum, vous est présenté par Paul Denis. Lecture des textes par Marika Bourdaloue. Rachel Rosenblum, psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, publie en 2000 un article « Peut-on mourir de dire ?» fondé sur l'expérience dramatique de rescapés de la Shoah qui moururent après avoir témoigné de leur vécu dans les camps. Poursuivant son questionnement sur les effets à distance des traumatismes collectifs, elle publie en 2019 « Mourir d'écrire ». Elle nous introduit à une compréhension profonde de l'énigme de la survivance qui ne garde pas le souvenir mais maintient la plaie elle-même. Son approche psychanalytique renouvelle notre regard sur la nature des états traumatiques et leur abord thérapeutique. Paul Denis, membre titulaire, formateur de la Société psychanalytique de Paris, nous présente ce livre et les enjeux saillants de la pensée de Rachel Rosenblum. Marika Bourdaloue, également membre de la Société psychanalytique de Paris, en lira pour nous des extraits. Pour aller plus loin, nous vous renvoyons à la bibliographie sélective des leçons de psychanalyse. Nous écoutons Paul Denis et Marika Bourdaloue.
Survivre aux traumas extrêmes, ceux de la Shoah ou d'autres génocides, entraîne des conséquences lourdes à porter. Parmi celles-ci, la culpabilité et la honte d'avoir survécu à des circonstances vécues comme inavouables et dégradantes. Le fait de se taire expose souvent le survivant à une sorte d'existence desséchée, à une mort dans la vie. Mais le fait de dire l'expérience intolérable peut entraîner des dangers non moins graves. Ce dire semble, dans certains cas, capable de déclencher des épisodes psychotiques, des atteintes somatiques graves, voire le suicide ou la mort. Dans le tout-dire de la cure, un autre danger guette le survivant, celui d'un bouleversement qui dépasse la réaction thérapeutique négative et réactive le traumatisme.
Mourir d'écrire met sous nos yeux le fait qu'il est des traumatismes inélaborables, des traumatismes qui conservent incarcérés dans une sorte de crypte psychique les éléments capables de les faire ressurgir. La constitution de cette crypte a été nécessaire pour sortir du bouleversement psychique de l'état traumatique lui-même et pour qu'une vie psychique cohérente puisse s'installer. Mais le traumatisme y est contenu sans être élaboré. Mais qu'est-ce que l'élaboration d'un traumatisme? C'est le fait que le psychisme bouleversé se réorganise en répartissant l'angoisse sur des images et des idées qui la rendent saisissable d'abord et qui peuvent ensuite être oubliées ou du moins perdre leur pouvoir de déclencher l'apparition d'une angoisse trop forte. Nous mesurons, à la lecture de ce livre, combien des traumatismes extrêmes mutilent le fonctionnement psychique. Marcel Cohen écrit que le poids de la Shoah conduit à l'écrasement du reste d'une vie. Il écrit « Pour le juif que je suis, la Shoah à laquelle je n'ai échappé que par miracle, enfant, tandis qu'elle anéantissait une grande partie de ma famille, a représenté un tel écrasement que les autres événements de ma vie sont nécessairement secondaires. » La crypte, comme un trou noir, tend autour d'elle un champ de force qui affaiblit ce qui reste en vie et limite les possibilités de mouvement, en particulier la capacité de surmonter d'autres traumatismes. Il est donc des traumatismes inélaborables, des deuils impossibles, des expériences qui laissent derrière elles des marques ineffaçables qui ont creusé des changements fondamentaux dans l'économie psychique. Ces traumatismes extrêmes échappent aux tentatives de secours par le débriefing. Ce que les personnes victimes de ce type d'expérience ont mis en place pour survivre, pour retrouver un équilibre intérieur, fût-il précaire, doit le plus souvent être respecté ou conforté. L'idée que l'évocation du traumatisme, longtemps après, pourra en permettre enfin l'élaboration, ne s'avère juste que dans les traumatismes ordinaires, mais peut avoir au contraire des effets destructeurs lorsqu'il s'agit de traumatismes extrêmes. Effets comparables ou plus dommageables encore que ceux de l'expérience dévastatrice initiale. Ce que Rachel Rosenblum met en évidence chez les survivants de traumatismes extrêmes, ceux de la Shoah comme ceux d'attentats terroristes, c'est que le traumatisme qui a frappé de plein fouet un moi constitué a laissé au cœur du psychisme une mine prête à exploser. Et que loin de chercher à faire revivre la catastrophe, il faut respecter les moyens que le sujet, tant bien que mal, a mis en place pour les contrecarrer. Favoriser le retour des souvenirs traumatiques ne peut être une règle générale. C'est l'une des forces de ce livre que d'y avoir renouvelé la question du traitement et de l'écoute du traumatisme en changeant les perspectives d'intervention thérapeutique avec les victimes d'attentats ou d'expériences bouleversantes extrêmes. Un collègue avait eu la générosité, l'honnêteté aussi, de témoigner d'un cinglant échec thérapeutique qu'il avait eu à connaître. Témoignage des plus instructifs dans la clinique psychanalytique du traumatisme, qui met en valeur le danger explicité par Rachel Rosenblum de redoublement du traumatisme. Écoutons ce qu'a écrit Rachel Rosenblum.
Carl ou le poisson cauchemar. Le récit de Sidney Stuart concerne un Américain de Paris venu sur le conseil d'un ami. Ce nouveau patient que Sidney Stuart choisit d'appeler Carl consulte pour des crises d'angoisse et des troubles mineurs de la sexualité. Au cours des entretiens préliminaires, l'analyste apprend que ce jeune Américain dépourvu d'accent est tchèque, juif de surcroît, et qu'il a survécu à l'internement dans un camp de concentration. Il a 15 ans quand le camp est libéré par les troupes américaines dont il devient la mascotte. Il s'engagera plus tard dans l'armée et prendra la nationalité américaine. Une fois adulte, Carl se marie. Sa femme est allemande et, précise-t-il, antisémite. Elle ne sait d'ailleurs pas que son mari est juif, dit Sidney Stuart. Le couple entretient des rapports sadomasochistes où Carl occupe la position de la victime et où il trouve particulièrement excitant d'être traité de petit gamin juif. Au cours de la cure, Carl signale à l'analyste qu'il souffre d'une allergie au poisson dont l'ingestion provoque chez lui un gonflement des lèvres. À raison de 3 séances hebdomadaires sur le divan, l'analyse semble progresser de façon normale. Au bout d'environ 5 mois, Carl voit se multiplier des cauchemars où il revit son expérience des camps. L'un de ces cauchemars est particulièrement insupportable. Il y est attaqué par un poisson géant et se réveille, lèvres gonflées. L'analyste fait alors le lien avec l'allergie du patient et propose à Carl de revenir sur le signifiant « poisson ». Cette suggestion déclenche une série d'associations, d'une extrême violence, au cours desquelles le patient se souvient de l'épisode suivant. Nous sommes en Tchécoslovaquie à la veille d'une fête juive. Dans la salle de bain, la carpe qui servira au repas de fête nage dans l'eau de la baignoire. Les nazis font irruption dans l'appartement familial. Carl se sauve dans le salon, tandis que retentissent les hurlements de sa mère. Les soldats viennent de tuer son père à coups de baïonnette. La pièce est inondée de sang. Les soldats battent sa mère. Carl est emmené par les soldats et ne reverra plus jamais ni sa mère, ni sa sœur. À la fin de la séance, Carl se met à hurler et donner des coups de poing dans les murs. L'analyste tente alors d'obtenir d'une collègue que Carl soit soigné à l'aide de médicaments, mais il est trop tard. Plongé dans un état psychotique sévère, Carl est envoyé à l'hôpital américain, puis transféré à Sainte-Anne. On y diagnostique un délire paranoïaque. Sidney Stuart nous invite à réfléchir sur l'échec d'une analyse qui semblait pourtant avoir bien commencé. Il constate l'inadéquation de la stratégie qui l'a amenée, peut-être trop vite, à détruire le rempart que le jeune Tchèque avait construit pour se protéger d'une expérience intolérable. le dégel des affects et la remémoration se traduisent ici non pas par une diminution de la souffrance, mais par un traumatisme redoublé et un rejet de la réalité. Que fallait-il donc faire ? Contrairement à la solution préconisée par Ferenczi, celle qui consiste à répéter le trauma dans des conditions plus favorables, la cure débouche, non pas sur la transposition que permet le rêve, mais sur la violence brutale du cauchemar, c'est-à-dire, étymologiquement, sur la présence oppressante d'un fantôme ou, dans ce cas, sur le retour menaçant du poisson. Nous ne sommes plus dans le domaine où l'angoisse peut jouer un rôle d'avertissement et donc de protection. L'angoisse protectrice a ici été remplacée par l'effroi. L'arrêt sur l'image du poisson a induit une aggravation. Là où il n'y avait que de l'angoisse, des problèmes identitaires et des douleurs somatiques apparaît un rejet pur et simple de la réalité. Karl est devenu fou.
Le livre de Rachel Rosenblum met en évidence le danger du témoignage après qu'a été vécu un traumatisme extrême. Dire est un danger, écrire en est un autre, et il s'est souvent agi d'un danger de mort. Rachel Rosenblum cite Robert Antelme, l'un des premiers écrivains de langue française, à avoir offert un témoignage sur l'univers des camps. Voici ce qu'il écrit. Le fait d'avoir trouvé les mots pour écrire l'espèce humaine m'a définitivement blessé. Quant à Paul Celan, il se suicide alors qu'il a trouvé les mots justes dans la langue même des meurtriers pour parler d'Auschwitz. La philosophe Sarah Kaufman a d'abord choisi d'utiliser une écriture qui approchait la crypte de l'extérieur, pourrait-on dire, mais en évitant son ouverture, écriture philosophique, pharmaceutique, dit-elle, cosmétique, dirions-nous aujourd'hui, factuelle, ne laissant pas de passage à l'émotion. Sarah Kaufman, comme Primo Levi, a donc d'abord pu aborder la Shoah de façon distanciée, en s'appuyant sur la pensée d'auteurs aimés ou admirés. À travers les mots des autres, dit Rachel Rosenblum, ceux de Nietzsche et de Freud pour Sarah Kaufman, ceux de Coleridge ou de Dante pour Primo Levi. Les vers de Coleridge, que Levi cite à plusieurs reprises, semblent indiquer la possibilité de la rupture de ce qui le protège encore. Depuis lors, à une heure incertaine, cette angoisse revient, et tant que je n'aurai pas compté l'histoire atroce, mon cœur en moi brûlera. Mais compter l'histoire atroce déclenche la dévastation d'un incendie. C'est lorsque Sarah Kaufman a ouvert la voie à une écriture porteuse de souvenirs et d'affects que se sont ouvertes les voies de la dépression qui devait la conduire au suicide. Rachel Rosenblum écrit. Évoquant son analyse, Sarah Kaufman parle du moment où sa bouche cesse d'être une sorte de bocca della verità, d'où sortent des énoncés raisonnables, pour devenir un antre d'où jaillissent les cris. Mais elle évoque surtout qu'il faut que ces cris soient entendus. En analyse, le silence de l'analyste ne suffit pas, ne suffit jamais. En matière de traumatisme, il est redoutable, ce qu'exprime ainsi Sarah Kaufman. Le silence de l'analyste est intolérable. Il est signe, non d'une indifférence aux événements de ma vie, mais d'une dépréciation de ce que j'ai de plus intime, fin de non-recevoir de mes dons, de ce qui sort de mon ventre, de ce que je produis. Ma marchandise alors, c'est de la merde ? Autant donc ne rien donner, ne rien dire, au moins le silence est d'or. Mais ce silence, lui aussi, m'est intolérable, d'où la nécessité impérieuse d'entendre mes paroles reprises et prises. Rachel Rosenblum critique donc une pratique psychanalytique qui se fiait et se confiait au silence de l'analyste. Leçon pour les psychanalystes d'aujourd'hui, en matière de traitement psychanalytique des états traumatiques, la parole de l'analyste doit prendre et reprendre le discours du patient, mais c'est aussi le cas, à un moindre degré certes, au cours de l'analyse de tout patient, chez qui il existe toujours quelques facteurs traumatiques qu'il faut traiter avec précaution. Ce livre nous éclaire aussi indirectement sur la façon dont la part traumatique de la souffrance de ces patients s'est organisée. Voici ce qu'écrit Rachel Rosenblum.
Les traumatismes, même extrêmes, n'effacent pas les blessures qui les ont précédées dans l'histoire du sujet. Bien au contraire, ils s'entrecroisent avec ces autres blessures, les multiplient, forment avec celles-ci des constellations délétères, dont il s'agit précisément, pour la psychanalyse, d'identifier les particularités.
Ainsi, les traumatismes sont en quelque sorte cumulatifs. Du moins, rendent-ils plus vulnérables aux épreuves traumatiques ultérieures. Mourir de dire peut concerner également les bourreaux. Nous rencontrons dans ce livre l'homme, malheureusement c'en était un, Franz Stangl, qui a commandé les camps d'extermination de Sobibor et Treblinka, où il a organisé l'assassinat industriel de plus de 400 000 personnes juives, 1 200 000 selon certaines évaluations. Il avait organisé dans sa tête un système de clivage. Voici ce qu'il a dit. À l'école d'entraînement de la police, on nous avait appris que la définition de crime devait satisfaire à 4 conditions. Il fallait un sujet, un objet, une action, une intention. S'il manquait un seul des 4 éléments, alors on n'avait pas affaire à un crime punissable. Je ne pouvais vivre que si je compartimentais ma pensée. C'est par ce moyen que je pouvais appliquer la définition à ma propre situation. Si le sujet était le gouvernement, l'objet les Juifs et l'action celle de Gazé, alors je pouvais me dire que pour moi, le 4e élément, l'intention, était absente. Au cours d'entretien avec une journaliste qui lui avait fait longuement parler de lui, il a été peu à peu envahi, non de la reconnaissance intellectuelle d'une responsabilité, mais du sentiment de sa culpabilité, qui s'est accompagné de transformations physiques, de sa peau, de l'expression de son visage. Lorsqu'il parle de Treblinka, sa parole devient confuse, son visage s'affaisse et passe du rouge au brique. Ses derniers mots avec la journaliste. « Ma faute est d'être encore là, je devrais être mort. Ma faute est là, je n'ai plus d'espoir. En tout cas, ça suffit maintenant. Je veux mener jusqu'au bout ces entretiens avec vous. Et puis, que ça finisse, que la fin arrive. » Il meurt d'une crise cardiaque la veille du dernier entretien prévu avec la journaliste. Mais la Shoah a aussi provoqué des situations psychiques invraisemblables qui amène Rachel Rosenblum à se pencher en particulier sur la question de l'imposture. Très étonnante en effet est l'apparition en 1995, en Allemagne d'abord, puis en 1997 en France, d'un livre, son titre en français est « Fragments », son auteur, Benjamin Wilkomirski, raconte l'enfance pathétique d'un enfant juif dans un camp de la mort et les horreurs auxquelles il assiste. Ce n'est qu'après 4 à 5 ans qu'un journaliste suisse découvre l'imposture. Las, il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces par un adulte d'une 40aine d'années qui a traversé une période noire, a tout perdu et entrepris une psychothérapie. Il est l'enfant d'une mère célibataire. Acheté par un couple sans enfants, élevé convenablement à Zurich, professeur de clarinette, ayant eu 3 enfants, mais dont la vie a été déchirée. Séparation avec sa femme, perte de la possibilité de voir ses enfants. Sans doute, l'enfance imaginée, dramatique qu'il raconte, traduit et transpose la dépression profonde qu'il a traversée. La narration mythomaniaque serait née au cours de la psychothérapie entreprise. Encouragé à rapporter ses souvenirs anciens, il a inventé une sorte de conte, factuellement faux, mais exprimant son désarroi et sa dépression du moment. Ce montage mythomaniaque n'a sans doute été possible que grâce à la connivence, espérons-la inconsciente, de sa psychothérapeute. Tout discours mythomaniaque ne se développe que s'il rencontre une forme de complicité. C'est ce qui fait écrire à Rachel Rosenblum que l'imposture est une coproduction, en précisant qu'elle est aussi une stratégie de survie pour l'imposteur, un contenant qui lui sert de canot de sauvetage. Rachel Rosenblum interroge le succès public du livre de Wilkomirski et le situe dans le contexte très particulier du refus, après la guerre, d'entendre, d'écouter les survivants revenus des camps d'extermination. La lecture du livre de Rachel Rosenblum, car il se situe au carrefour de l'histoire de la psychanalyse et de la mémoire, est saisissante. L'écriture, dans sa justesse, son authenticité, nous permet d'approcher, de saisir quelque chose de la profondeur de la souffrance des victimes de la Shoah. Victimes directes, les rescapés. Victimes indirectes, qu'ont été les proches des victimes et des survivants. Souffrance particulière au long cours, induisant des inflexions du parcours de la vie de chacun d'eux. Ce saisissement met en évidence chez tout lecteur, même chez celui qui n'a pas été directement ou indirectement touché par le cataclysme, que la Shoah a frappé, traumatisé chacun d'entre nous. Cela est si vrai que presque 80 ans après, les récits, les reliques, les images de la Shoah, ou même leur seule évocation, gardent le même pouvoir traumatique pour nous tous. La Shoah a été un séisme pour la civilisation elle-même. Comme l'écrit Rachel Rosenblum, on peut mourir de dire, on peut heureusement continuer à vivre.